langage du Seigneur, c'est le langage de la victoire. Le langage du Seigneur, c'est le langage de la victoire. Amen. Et la victoire est un des sujets du livre de l'Apocalypse. Certains voient le livre de l'Apocalypse, de la Bible, comme un livre de destruction, de ravage, de jugement, de sang. L'Apocalypse, ce n'est pas cela. Même si ces choses y sont, l'Apocalypse, nous l'avons vu premièrement, c'est le livre de l'ultime révélation de Jésus-Christ. Deuxièmement, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de bénédiction. Il y a 7 paroles qui commencent par le mot « heureux », 7 béatitudes. Et enfin, c'est le livre de toutes les victoires, 7 victoires avec 7 récompenses que Jésus désire nous donner dans sa grâce. Dieu veut faire de nous un peuple de vainqueurs. Il ne nous a pas sauvés. Il ne nous a pas renouvelés par son esprit pour la défaite, mais pour la victoire. La victoire dans les cieux, mais la victoire aussi sur cette terre. Et si le langage de Jésus, c'est le langage de la victoire, nous aussi, nous devons apprendre à développer le langage de la victoire et l'état d'esprit de la victoire. Il y a donc 7 victoires dans ce livre de l'Apocalypse et nous les trouvons l'une après l'autre en conclusion de ces lettres que Jean écrit de la part du Seigneur à 7 églises de cette région d'Asie. Nous connaissons pour la plupart ces lettres et nous savons que dans ces messages, Jésus s'adresse à ces églises dans le but de les préparer à son retour. Et il leur dit les choses qu'elles doivent entendre. Et ces choses nous concernent aussi, parce que Jésus revient bientôt et que nous devons être prêts nous aussi pour son retour. Jésus dit la vérité et il dit « Je connais » et le Seigneur connaît notre assemblée. Et les paroles qu'il adresse à son église, à ses églises, sont parfois des paroles difficiles, avec des reproches, mais jamais dans un esprit de condamnation, mais toujours d'appel à la repentance et de changement. Et à côté de ces paroles, parce que c'est toujours ainsi que procède le Seigneur, il y a aussi des paroles de promesse et des paroles de récompense. Et c'est ce point-là que je veux aborder avec vous ce matin. Nous allons nous arrêter sur ces paroles de victoire, ces paroles de récompense que le Seigneur réserve à ses églises. Et nous allons voir comment ces 7 paroles de victoire forment ensemble un tout progressif et cohérent qui raconte notre histoire, celle que nous vivrons dans les cieux, mais celle que nous pouvons vivre dès aujourd'hui sur la terre. Parce que la victoire en Jésus, ce n'est pas simplement là-haut, mais c'est aussi ici, dès aujourd'hui, par sa grâce. L'homme est ainsi fait que ce qu'il recherche généralement dans sa vie, c'est la victoire. On ne va pas s'engager dans une compétition en espérant la défaite. On ne s'engage pas dans un projet d'études en se disant « je vais m'arrêter en cours ». On ne s'engage pas dans la construction d'une maison, d'un ouvrage en se disant « je vais m'arrêter aux fondations ». Quand on lance un projet, c'est pour atteindre le but. Quand un athlète s'engage dans la course, c'est pour atteindre le but. Avec cette différence qu'il ne court pas simplement pour franchir la ligne, mais qu'il court pour la franchir en vainqueur. C'est vrai qu'en France, nous avons un langage très particulier. Ça c'est propre à notre culture. Nous avons le langage de Monsieur de Coubertin, qui dit que l'essentiel, c'est de de participer. Et dans les églises en France, ça nous convient très bien. C'est un langage que nous trouvons d'ailleurs très spirituel. Oh, c'est bien de parler comme ça. Ça fait très spirituel. Ça fait très religieux, en fait. Mais vous voyez, ça fait modeste. Ça fait humble. Oh, moi, l'essentiel, vous savez, c'est de participer. Je participe. En fait, c'est un langage tout à fait pseudo-spirituel. Parce que souvent, ça permet de cacher nos lacunes, de cacher une certaine mollesse et une certaine paresse. Mais en tout cas, c'est pas le langage de Jésus. Car le langage de Jésus, c'est pas à celui qui participera, c'est à celui qui vaincra. Jésus s'adresse aux vainqueurs. Et le Seigneur cherche au milieu de son Église des vainqueurs, des gens qui ne se contentent pas simplement de traverser la vie, mais des gens qui prennent position pour lui et qui vont s'attacher à la foi avec un but, la victoire. Je veux remporter la victoire et je veux aussi les récompenses qui lui sont associées. Voilà encore un mot que dans beaucoup d'églises on n'aime pas. Oh, récompense, mais je n'ai pas besoin de récompense. Seigneur, donne-moi une couronne, mais je la mets à tes pieds. Oui, nous le ferons, mais pourquoi être plus spirituel que le Seigneur ? Puisque lui a décidé de nous récompenser, de nous couronner, acceptons ce que Jésus veut nous donner. Qui sont les vainqueurs? Oh, je sais que c'est à la mode. Je suis un peu critique, là, méchant, pardon. C'est à la mode dans certaines églises de dire « Nous sommes les vainqueurs, nous sommes les champions !» Ok. Je note que Jésus lui dit « à celui qui vaincra ». La ligne d'arrivée n'est pas franchie, ce qui ne nous empêche pas de courir avec un mental de champion. Ça, c'est important. Mais nous sommes engagés dans une lutte parce que celui qui a vaincu, c'est celui qui aujourd'hui combat. C'est aujourd'hui celui qui lutte, celui qui court. Et nous ne pouvons pas imaginer la vie chrétienne comme une petite balade en montagne, non. La vie chrétienne, c'est un combat. C'est une course avec des règles et avec une ligne d'arrivée à franchir. Ce que je note aussi dans les paroles du Seigneur, si vous connaissez ces lettres aux églises d'Asie, vous savez que Jésus parle à l'église à travers l'ange. Certains y voient le responsable spirituel de cette église, il parle à l'Église, donc à une communauté. Et certainement, si le Seigneur le voulait, comme il le fait des fois à travers des messages, à travers des paroles prophétiques, il nous parle en tant que communauté, ici, dans cette assemblée. Et il adresse des reproches, il adresse des encouragements. Mais maintenant, en conclusion de chacune de ces lettres, lorsqu'il est question de la victoire et des récompenses, Jésus ne s'adresse plus collectivement, mais il parle à l'individu, le vainqueur, celui qui vaincra. Ce qui veut dire qu'il y a donc un engagement au personnel. Nous ne pouvons pas simplement rester cachés dans l'église comme cela. Jésus nous connaît. Et d'ailleurs, nous savons, c'est un enseignement que nous trouvons par exemple chez l'apôtre Paul, que nous devons rendre compte pour le bien et le mal que nous aurons fait en étant serviteurs de Jésus-Christ. C'est la parabole des talents, par exemple aussi. Et nous rendrons compte personnellement de notre intendance, de notre gestion, des fruits et des œuvres que nous aurons accomplis pour le Seigneur et par la grâce qu'il nous a accordée. Et ce qui est certain, c'est que Jésus veut que son Église soit une église de vainqueurs. Et il nous a tout donné pour cela. Sa vie, son esprit et les plus précieuses promesses. Il ne veut pas faire de nous un peuple vaincu, un peuple de perdants, mais un peuple de vainqueurs. Alléluia. On va prendre le temps maintenant de regarder un peu les paroles que Jésus adresse à chacune de ses églises. Et donc nous allons dans le livre de l'Apocalypse pour survoler un peu ces sept lettres. Nous lirons simplement la conclusion à chaque fois, puisque c'est dans cette conclusion que nous y trouvons les paroles de victoire et de récompense. C'est la première, nous la trouvons au chapitre 2, verset 7, la conclusion de la lettre à l'église d'Éphèse. Et voici ce que dit le Seigneur. « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Il y a là en fait une double récompense. La première est cachée, elle est implicite. La première récompense, c'est d'entrer dans le jardin de Dieu, d'entrer dans le paradis du Seigneur. Car comment manger du fruit de l'arbre de vie si d'abord nous ne sommes pas rentrés dans le seul endroit où se trouve cet arbre si majestueux, si particulier, le jardin de Dieu. C'est la première récompense. Nous savons qu'un jour, nous rentrerons dans le paradis de Dieu. Et nous savons que dans ce paradis du Seigneur, nous aurons la possibilité d'accéder à un arbre unique. L'arbre, non pas de la connaissance du bien et du mal, car celui-ci a été taillé en pièces, mais à cet arbre qui est celui de la vie. Et là est la seconde récompense, en manger le fruit. Certains s'interrogent sur le fait de savoir est-ce que cet arbre c'est le même qui était dans le jardin d'Éden. Peut-être. Ce que nous savons par contre, c'est qu'Adam et Ève avaient une interdiction de manger du fruit de l'arbre de vie. Dieu a empêché. Pourquoi a-t-il empêché? Parce que s'ils avaient mangé de ce fruit, ils auraient vécu éternellement. Mais dans quel monde? Dans un monde maudit? Qui produit l'épine? Et le Seigneur n'a pas voulu qu'Adam et Ève goûte à l'éternité dans un tel contexte. Il les a préservés en quelque sorte. Et c'est dans son paradis, dans son jardin, qu'il nous donnera de manger à ce fruit, au fruit de cet arbre merveilleux. Mais je voudrais vous poser cette question. Cette promesse n'a-t-elle pas commencé à s'accomplir pour tous ceux qui ont mangé le corps du Seigneur suspendu à la croix comme un fruit à son arbre? Ce fruit n'avait rien pour attirer nos regards. Non pas comme celui du jardin de l'Éden, rappelez-vous. Que dit Ève? Que le fruit était agréable à la vue. Mais qu'est-il dit de Jésus? Il n'avait aucune beauté. Rien pour nous attirer. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée envers nous. Et nous avons compris. Oui, ce fruit. Cette nourriture. Le corps de Christ. Son sang sont véritablement une nourriture et un breuvage qui donnent la vie. Et nous avons mangé, et nous avons bu, et nous avons reçu la promesse de la vie éternelle. Un jour, bientôt, très bientôt, nous mangerons du fruit de l'arbre de la vie. Et ce fruit-là ne sera pas un fruit marqué par la douleur, flétri par les meurtrissures. Ce fruit-là sera glorieux. Éclatant de beauté et de majesté. Et la première des choses que Dieu tient en réserve pour nous lorsque nous rentrerons dans son jardin, c'est donc de manger de ce fruit, ce qui nous parle d'une intimité, une proximité, une communion avec Jésus. Mais déjà sur terre, nous mangeons et nous buvons et nous sommes rassasiés de tout ce que le Seigneur veut nous donner. Passons maintenant à la lettre à l'église de Smyrne, Apocalypse chapitre 2, verset 10 à 11. Je prendrai la dernière phrase du verset 10 où le Seigneur dit à cette église qu'elle allait subir des tribulations et des persécutions. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Les persécutions menaçaient l'église de Smyrne. Mais le Seigneur encourage ses enfants à rester fidèles dans la foi et à ne pas regarder la mort physique comme une fatalité. Il leur dit au contraire, regardez plus loin, demeurez fidèles dans ma parole. Car les tyrans de la terre ne peuvent faire qu'une chose, nous ôter la vie. Par contre, Dieu, lui, il peut jeter nos âmes dans les temps de feu qui est la mort éternelle. Mais ce que le Seigneur dit aux chrétiens de Smyrne, c'est que même si les tyrans les troublent, les persécutent, ils n'ont rien à redouter de la seconde mort. Ils n'ont rien à redouter de l'étang de feu. Le Seigneur les en délivrera. Car Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et ce qu'il leur promet, c'est de leur donner une couronne de vie. Telle est la promesse aussi que le Seigneur réserve à chacun d'entre nous. Il nous délivrera de la puissance de la mort, nous n'avons rien à craindre, mais par-dessus tout, il veut nous couronner de vie. Le Seigneur a préparé des couronnes pour chacun d'entre nous. Mais la plus belle qu'il peut nous donner, c'est la vie éternelle auprès de lui. Passons à l'église de Pergame, Apocalypse chapitre 2, verset 17. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Encore une fois, il y a deux récompenses. Deux récompenses ici promises au vainqueur. Premièrement, manger de la manne cachée. Ensuite, recevoir un caillou blanc sur lequel est écrit un nom mystérieux. Ces deux récompenses ont ceci en commun, une part de secret. Une manne cachée et un nom mystérieux. Elles sont cachées car tenues en réserve, d'une manière particulière pour les vainqueurs, c'est-à-dire pour ceux qui en connaissent la valeur. Tout comme la Bible nous invite à considérer la table du Seigneur que nous avons dressée devant nous, elle nous dit que cette table, ce pain, cette coupe, sont pour ceux qui savent discerner le corps de Christ. Les gens du monde n'y voient qu'un morceau de pain, qu'une coupe remplie du fruit de la vigne. Nous savons qu'il y a beaucoup plus. Il y a là les emblèmes de l'amour de Jésus-Christ. Et dans le ciel, le Seigneur tient des choses cachées, mais qui nous seront révélées parce que nous avons cru et nous avons connu tout l'amour de Jésus-Christ pour nous. Il y a dans le ciel une manne cachée. Je crois que Dieu, le temps venu, nous révélera des choses extraordinaires. Il y a bien des choses dans la parole que nous ne comprenons pas. Ça ne nous empêche pas de les croire, mais nous ne les comprenons pas. Il y a bien des mystères qui sont cachés. Dieu nous a révélé des choses pour notre instruction et il en a gardé d'autres pour lui. Dans le ciel, nous aurons une plus grande révélation des choses du cœur de Dieu. Et ce sont des choses que nous désirons parce que nous voulons connaître davantage notre Seigneur. Et puis Jésus dit, continue en évoquant donc un caillou blanc. Alors il y a beaucoup d'interprétations différentes du caillou dans le contexte de l'époque. Certains y voient une pierre d'acquittement lors des votes de tribunaux, une pierre blanche pour ceux qui étaient graciés, une pierre noire pour la condamnation. On invitait aussi les gens à un banquet en leur offrant une pierre. Et puis dans certaines compétitions, une pierre était donnée à celui qui remportait l'épreuve sportive. Une pierre blanche nous est donnée, mais ce qui est important, c'est de considérer qu'il y a quelque chose sur cette pierre, un nom nouveau. Quel nom ? Notre nom ? Je ne crois pas. Apocalypse 3:12 nous dit ceci, que lorsque nous serons dans le ciel, il écrira sur nous son nom nouveau. C'est un nom qui demeure caché. Ce qui est céleste, divin, éternel, l'apôtre Paul nous dit que c'est ineffable. Et je crois que le nom divin, le nom céleste de Jésus est ineffable. Et nous n'avons pas les mots, les lettres, les sons pour l'exprimer sur cette terre. Mais dans le ciel, nous recevons une révélation de ce nom. Nous recevons ce caillou blanc et sur ce caillou, il y aura donc le nom glorieux de notre Seigneur. Et ce sera pour nous comme une nouvelle révélation de la personne de Jésus. La manne cachée, c'est Jésus. Et le nom nouveau que nous recevons, c'est celui de Jésus. Et là, dans la présence du Seigneur, nous recevrons une révélation plus grande de notre Seigneur, de notre Dieu. Et pour le chrétien, il n'y a pas de chose plus merveilleuse que de considérer l'amour de Christ, que de mieux connaître encore notre Seigneur. Car en lui, il y a tous les secrets, tous les mystères, tous les trésors de la sagesse, de la connaissance. Tout est en Jésus. Apocalypse chapitre 2 verset 26, le Seigneur s'adresse à l'église de Thyatire et il lui dit ceci: à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Bientôt le Seigneur règnera sur cette terre et nous règnerons avec lui. Il règnera d'une autorité qu'il reçoit du Père. Rappelez-vous, Jésus a refusé les royaumes que Satan voulait lui donner. Il voulait les recevoir de son Père. Et bientôt, Jésus règnera. Et nous serons à ses côtés. Et nous règnerons sur une terre. Oh, quelle terre merveilleuse! La terre du millénium, comme la Bible l'appel, c'est la terre de toutes les utopies. De toutes les utopies politiques, de toutes les utopies philosophiques, de toutes les utopies économiques, de toutes les utopies écologiques. Mais c'est bien au-delà de tout ça. Parce que quelles que soient les pensées de l'homme pour vivre mieux, il est incapable d'y accéder parce que son cœur est marqué par la méchanceté et le péché. Mais lorsque Jésus revient, la terre sera entièrement renouvelée, comme au jour de la création. Et nous régnerons avec lui. 1000 ans de règne de justice, de vérité, de prospérité pour les nations de la terre. Et c'est un grand encouragement là pour de nombreux frères et sœurs qui dans le monde, à cause de leur foi, du témoignage de Jésus-Christ, sont persécutés. Un jour, ils savent qu'ils partageront l'autorité avec le Seigneur. Apocalypse chapitre 3 verset 5, Jésus s'adresse à l'église de Sardes et il lui dit: celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Qu'il est merveilleux de savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Quand les disciples sont revenus voir Jésus et lui ont dit: Seigneur, même les démons nous sont soumis, Jésus leur a dit: c'est bien, mais réjouissez-vous surtout de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Parce que ça veut dire que nous n'avons rien à craindre du jugement de Dieu. Ce qui n'est pas le cas de ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Ceux-là seront envoyés vivants dans les temps de feu. Mais pour nous, nous avons cette assurance que le sang de Jésus plaide en notre faveur. Mais ce qui est merveilleux dans ce passage, dans cette récompense qui est là, c'est de considérer aussi que le Seigneur, devant toute l'armée des anges, devant toute l'Église et surtout devant le Père lui-même, va confesser mon nom, ton nom, notre nom. Comme pour dire au Père: celui-là, celle-là, il m'appartient. Il est à moi. Oh, que c'est bon, que c'est une merveilleuse victoire, que seul, bien sûr, le chrétien peut apprécier. Parce que nous sommes là dans des choses tellement spirituelles, tellement profondes, élevées, qu'il faut en connaître la saveur. À l'église de Philadelphie, Jésus va dire ceci, Apocalypse chapitre 3, verset 12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. » J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. David disait: j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Psaume 23, verset 6. Qu'il aurait aimé entendre cette parole. Qu'il aurait aimé entendre le Messie de l'Éternel, Jésus, dire: mais tu habiteras dans la maison de mon Dieu pour l'éternité. Je ferai de toi là une colonne, stable, stabilité, force, pérennité. Tu n'en sortiras plus. Et en plus, j'écrirai sur toi mon nom. Dans l'Antiquité, c'était une une chose qui était assez courante. Les esclaves étaient marqués du nom de leur maître. Les soldats romains étaient marqués du fameux SPQR, de la Légion romaine. Et quand quelqu'un était marqué du nom de son maître, de son propriétaire, signifie bien sûr qu'il lui appartenait entièrement. Et quand nous portons le nom de Jésus-Christ, ça veut dire que nous appartenons entièrement à Jésus-Christ. Nous portons ce nom, non pas comme un sceau d'infamie, mais comme un sceau de gloire. Nous appartenons à Dieu. Personne ne pourra enlever ce nom. Nous sommes à lui. Mais en plus, ce nom nous authentifie comme de véritables enfants de Dieu. Mais ce sceau nous transmet aussi toute l'autorité et la puissance de notre Seigneur. Enfin, à la Odyssée, Jésus dit ceci, chapitre 3, verset 21. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur son trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Juste cette parole. Même à Laodicée, il y a des vainqueurs. Êtes-vous étonné de cela? Comment peut-il y avoir des vainqueurs à Laodicée? N'est-elle pas cette église qui sera vomie? N'est-elle pas cette église qui laisse Jésus en dehors au point qu'il soit obligé de frapper à la porte pour voir si quelqu'un veut bien le faire rentrer? Jésus n'enterre jamais les églises mortes. Jésus aime l'église. Il l'aime comme son épouse. Il aime toutes les églises. Et à toutes les églises, il dit « celui qui vaincra ». Il fait entendre le message que l'église a besoin d'entendre. Et il sait que le message, lorsqu'il trouvera le chemin d'un cœur, produira un vainqueur. J'aime bien cela, parce que nous lisons tellement de choses de la part d'hommes, de femmes qui sont de tels prophètes du Seigneur, mais qui à la bouche n'ont que des paroles de condamnation, des paroles de jugement. Moi, ce que j'observe, que ce soit les prophètes de l'Ancien Testament ou que ce soit ici le Seigneur dans le livre de l'Apocalypse, quand le Seigneur ou ses prophètes ont des paroles dures, vous pouvez être sûr que sitôt après, ils ont des paroles d'espérance, des paroles de réconciliation. C'est tellement plus facile d'avoir des paroles qui tranchent. C'est vrai qu'on s'y plaît, n'est-ce pas? Oh, être dur, oh, plus on est dur, plus on est saint. Le Seigneur peut être tranchant. Il peut être tranchant par moments. Mais c'est toujours dans le but de guérir et de sauver. Quel Dieu merveilleux nous avons en lui. Alors, il est donc question ici du trône de notre Dieu. Il est question ici de nous asseoir avec lui dans le ciel. L'ultime récompense qui nous est offerte, c'est donc d'être à côté de notre Dieu pour l'éternité, assis sur son trône. C'est un langage que nous trouvions autrefois dans nos églises, il a un peu disparu aujourd'hui. C'est celui de dire « Seigneur, je me contenterai d'un strapontin dans le ciel ». Apparemment, ce sont des gens qui ne sont jamais allés dans des théâtres à Paris, parce que si vous allez dans un théâtre à Paris, le strapontin, c'est aussi cher que le fauteuil. Donc, vaut mieux prendre le fauteuil, parce que si vous tombez sur le strapontin, de toute façon, c'est le même prix. Mais je voudrais vous dire ceci, il n'y a pas de strapontin dans le ciel. C'est quoi cette façon de considérer comme Dieu, comme quelqu'un qui éventuellement mettrait un tabouret pour l'un an? Ah oui, mais c'est mieux que ce que... Ça fait plus spirituel de dire, moi, je vais avoir un tabouret. Non, Dieu nous fait asseoir sur un trône, le sien. Il n'y a qu'un siège, le sien, c'est son trône, il est pour nous. C'est la gloire de notre Dieu. Nous avons besoin de changer nos mentalités souvent. Alors je suis passé rapidement sur ces différentes paroles de victoire, d'appel à la victoire et de récompense que le Seigneur nous adresse à travers ces sept églises d'Asie. Et je voudrais maintenant, en y revenant, essayer de les assembler les unes aux autres et vous montrer qu'il y a une cohérence, qu'il y a même une progression. Ce ne sont pas ces paroles éparses, ce sont des paroles qui vont nous servir de guide. Jésus commence donc par s'adresser à l'église d'Éphèse avec la promesse de l'arbre de vie. Il est question ici de la restauration de notre communion avec Dieu. À cause du péché, il y a un fossé entre nous et Dieu. Nous sommes séparés, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous ne pouvons plus accéder à notre Seigneur. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, il est venu pour approcher le royaume de Dieu de chacun d'entre nous, pour que nous ayons accès au royaume de Dieu. Et c'est là la première victoire que Dieu tient en réserve pour chacun d'entre nous. Nous pouvons retourner vers lui, nous pouvons faire la paix avec lui, et nous pouvons manger de cet arbre et de son fruit qui s'appelle Jésus-Christ pour recevoir la paix, la réconciliation, le pardon et la promesse de la vie éternelle. Amen. C'est la première victoire. Il n'est pas possible de goûter aux autres victoires si d'abord on ne passe pas par cette victoire. Tout commence à la croix, n'est-ce pas? Mais tout ne s'arrête pas là, au contraire. La croix n'est que le début de toute une autre série de victoires à recevoir. Avec l'église de Smyrne, il est question de la vie éternelle. Nous n'avons pas à redouter ni la mort ni la seconde mort, car nous avons dans nos cœurs l'assurance de la vie éternelle. N'avons-nous pas mangé du fruit de l'arbre de vie? Et le Seigneur nous dit aussi à son peuple qu'il aura réuni auprès de lui, « J'ai en réserve pour toi des récompenses, une couronne de vie, une couronne, le Seigneur veut nous couronner. » Et ça nous parle du tribunal des récompenses. Qu'est-ce que c'est que ce tribunal? N'ayez pas peur, il n'est pas question de nous envoyer en enfer, il est question de nous récompenser. Dieu est un Dieu de récompense. Dieu veut nous couronner. Et l'apôtre Paul dit que nous serons donc jugés selon le bien et le mal que nous aurons fait étant dans nos corps. Et il est question aussi du serviteur de Dieu, du croyant. Le Seigneur va peser nos œuvres, va peser notre fruit. Et il veut nous bénir. Et il veut nous récompenser. Jésus a imagé ceci par la parabole des talents. Et le Père veut nous dire, oui, bon et fidèle serviteur. Et oui, le Seigneur pèsera toutes ces choses. Il pèsera les œuvres que nous aurons accomplies par sa grâce et celles que nous n'aurons pas voulu accomplir. Il pèsera aussi le fruit que nous aurons porté. Et l'apôtre Jean nous dit dans son évangile au chapitre 15 que un disciple, c'est quelqu'un qui porte beaucoup de fruits. Et notamment un fruit de sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ainsi, après avoir été réunis dans le jardin de Dieu, dans le paradis du Seigneur, promesse à l'église d'Éphèse, il y a donc le temps du tribunal de Christ, du tribunal des récompenses, où le Seigneur veut nous récompenser, récompenser ses serviteurs, église de Smyrne. Et puis ensuite, il y a le temps de l'église de Pergame, la manne cachée et le nom nouveau. Et ici, j'y vois comme une représentation, une image des noces de l'agneau. La manne cachée, le grand banquet que le Seigneur prépare pour son église. Et la nourriture dont nous voulons nous nourrir en ce banquet, ce n'est pas de toutes sortes de friandises, de viande ou de volaille, mais c'est de Jésus lui-même. De Jésus lui-même. Et il nous nourrira à ce banquet. Et il nous donnera une pierre avec un nom nouveau. Nous recevrons le nom de notre époux. Ce sont les noces de l'agneau. L'épouse reçoit le nom de son époux. Sur cette pierre d'engagement. Vient ensuite le temps de l'église de Thyatire. Le temps du règne. L'Apocalypse nous montre qu'après le temps des noces de l'agneau, vient le moment où Jésus revient en gloire sur cette terre pour régner pendant 1000 ans. Il est accompagné de l'armée des anges et il est accompagné de son épouse, l'Église. Et il vient pour régner sur la terre depuis Jérusalem à travers le peuple d'Israël. Et pendant 1000 ans, nous serons à ses côtés pour régner de gloire en gloire avec lui sur une terre qui sera bénie de sa présence. Nous avons parlé ensuite de l'église de Sardes, cette église où le Seigneur parle de ce livre de vie et du fait qu'il confessera notre nom devant son Père. Nous sommes là après le millénium, nous sommes dans le temps du jugement dernier, mais nous n'avons pas à craindre le jugement dernier. Parce que lorsque le Père ouvrira le livre de vie, que verra-t-il? Que lira-t-il? Il lira ton nom, il lira mon nom. Et le Père verra ça. Et Jésus dira, oui, oui, je le connais. Je la connais. Alors, le Seigneur se réjouira. Je vois ce moment du jugement dernier, ce moment de cette victoire et de cette récompense où le Seigneur confesse notre nom devant le Père comme le moment de la présentation de l'épouse au Père. Avant qu'elle ne rentre dans la maison du Père. Nous le verrons la semaine prochaine lorsque je traiterai de nos fiançailles et notre mariage avec Jésus, lune de miel. Nous verrons que la maison que le Seigneur, que Jésus nous prépare, que l'époux prépare, c'est, elle est dans la maison du Père. Et jusque-là, à ce moment, nous ne sommes pas encore rentrés dans la maison du Père. Nous sommes rentrés dans le jardin de Dieu, mais pas dans la maison de Dieu. Et après le jugement dernier, nous allons rentrer dans l'éternité. Nous allons rentrer dans la cité de Dieu. C'est ce que nous retrouvons ensuite avec l'église de Philadelphie. Où le Seigneur dit, je ferai de toi une colonne dans mon temple. Et tu n'en sortiras plus. Nous rentrerons dans la cité de Dieu. Si vous connaissez le livre de l'Apocalypse, vous pourrez le relire, je vous y encourage. Vous verrez comment ces chapitres s'enchaînent les uns après les autres. Nous rentrerons dans la cité de Dieu. En fait, il n'y a pas de temple dans la cité de Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem. La présence de Dieu est là partout. Mais lorsque nous serons rentrés dans la Nouvelle Jérusalem, nous n'en sortirons plus. Le Père nous dira, tu peux rentrer dans ma maison, toi dont le nom a été confessé par mon fils, tu peux rentrer dans ma maison et en rentrant dans ma maison, vois, je mets mon nom sur toi. Je mets le nom de ma ville sur toi. Tu deviens citoyen de cette cité extraordinaire et magnifique. C'est la promesse que Dieu accorde aux vainqueurs de l'église de Philadelphie. Et puis vient donc enfin l'apothéose, avec la promesse de récompense donnée à l'église de Laodicée. Car au centre, au plus haut, il y a quoi ? Le trône de Dieu. C'est l'apothéose. Et le Seigneur nous dit, viens, viens, viens avec moi. Nous allons nous asseoir sur ce trône. Nous allons nous asseoir à côté de mon Père pour régner pour l'éternité, de gloire en gloire. Voyez-vous donc comment s'enchaînent toutes ces promesses et ces récompenses les unes après les autres? Elles nous racontent notre histoire du moment où Jésus vient chercher son Église jusqu'au moment où nous rentrons dans l'éternité. Et tout au long de cette histoire, des victoires, des récompenses sont accordées à ses serviteurs. Pas après pas, étape après étape, le Seigneur veut nous récompenser et nous bénir. Alléluia. Et maintenant, mon dernier point, c'est de dire ceci. J'ai considéré ces choses jusqu'à présent dans une perspective céleste, à venir. Et je crois qu'elles s'accompliront littéralement. Mais nous ne devons pas ignorer que ces victoires et les promesses de récompense qui sont associées sont à vivre dès aujourd'hui. Chaque fois que nous luttons par la foi et pour la foi, chaque fois que nous surmontons la tentation, les épreuves, le péché, nous progressons dans la découverte spirituelle de ces choses. Chaque victoire remportée fortifie ta foi et te permet de saisir toujours un peu plus une de ces récompenses. Le Seigneur veut t'encourager. Dieu ne met pas de limite à ce que tu peux vivre dès aujourd'hui pendant ton pèlerinage terrestre. Il ne met pas de limite au développement de ta foi. Il ne met pas de limite aux victoires que tu peux remporter. Il ne met pas de limite aux récompenses que tu peux déjà recevoir. Bien sûr, nous ne ferons que les goûter en partie, la plénitude nous est réservée dans les cieux. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a bien plus à vivre que simplement goûter à Jésus-Christ comme un fruit à l'arbre de vie. Nous l'avons tous fait, nous qui avons cru en lui. Mais il y a plus, il y a bien plus dans les cieux et sur la terre. Il y a, comme pour l'église de Smyrne, le fait, et c'est une promesse, qui est un enseignement que nous trouvons dans Romains chapitre 8, de la part de l'apôtre Paul, il nous délivre de la mort. Il nous délivre de celui, épître aux Hébreux chapitre 2, qui avait la puissance de la mort, qui nous tenait dans la servitude de la mort. Je ne crains pas la mort. Et je ne redoute même plus la mort éternelle, la seconde mort, parce que j'ai l'assurance de mon salut. Et quand quelqu'un vit cela vraiment dans son cœur, et je demande à Dieu de me donner une plus grande révélation de ceci, je crois que ça change la vie. Je crois que ça change complètement la vie. Nous le voyons avec, j'en ai ce témoignage personnel avec mon papa quand il est décédé, mais la mort n'avait aucune prise sur lui. Si ce n'est sur son corps, fatigué, mais son esprit était avec Dieu, en communion avec le Seigneur. Et il était déjà victorieux. Sur son visage, ça se voyait, même si la souffrance de la maladie était là. Il y avait une paix. Délivré de la peur de la mort. Et déjà couronné de la puissance de la vie. Mais aussi mangeant de cette manne cachée. Nous ne voulons pas manger à la table du monde. Comme Daniel, nous voulons nous préserver des mets que le monde pourrait nous montrer. Nous voulons rester purs pour notre Seigneur. Et déjà, nous goûtons à sa parole, pain de vie, nourriture de l'esprit et de l'âme tout entière. Et nous disons, je suis béni, je suis béni. L'homme ne peut pas comprendre ce que je vis. Il est charnel, il est dans son péché. Mais moi, j'ai goûté. Tu as goûté. Et nous ne pouvons plus nous en passer. Et déjà, c'est une manne cachée pour nous. Nous avons reçu le nom de Jésus. Nous le vivons, nous voulons le servir. Nous voulons l'aimer toujours plus. Je vous montre qu'il y a donc des victoires et des victoires. Nous pouvons déjà commencer à régner. Non pas pour nous dire, ça y est, je suis arrivé, je suis fort. Oh. Non, non. Mais par la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons marcher sur toute la puissance des ténèbres, sur les serpents, sur les scorpions, disait Jésus lui-même. Il nous a envoyés pour accomplir ses œuvres, pour témoigner de lui, pour guérir les malades, pour chasser les démons. C'est déjà la puissance du royaume de Dieu qui se manifeste. La victoire de son royaume est pour nous dès aujourd'hui. Pouvoir nous approcher du trône de Dieu, sans crainte. Parce que je sais déjà que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Oh, je pourrais me réjouir, comme pour la victoire de l'église de Thyatire. Oui, Seigneur, je marche sur le péché, je marche sur la tentation, je marche sur Satan. Et Jésus nous dit, mais attends, il y a quelque chose de plus grand. Réjouis-toi que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Va saisir la victoire que je réserve dans l'église de Sardes. Va un peu plus loin. Vous voyez comme les Écritures s'harmonisent parfaitement. Et considère où ton nom est inscrit dans ce livre de vie magnifique. Et Jésus nous dit, si tu confesses mon nom là parmi les hommes, si tu ne le renies point, moi je confesse ton nom dans les cieux. Et déjà, je sais que mon nom est confessé. Chaque fois que je confesse le nom de Jésus sur terre, Jésus confesse mon nom dans les cieux. Quelle victoire! Et je peux m'approcher du trône de Dieu, j'ai pas peur. L'amour parfait a banni la crainte. Oh Seigneur, merci parce que je peux t'appeler mon Père. Merci parce que Jésus, c'est comme si Jésus me présentait déjà à toi en disant, celui-là, tu vois, c'est celui que j'aime. Et je fais la prière de David, Seigneur, j'aimerais vraiment habiter tous les jours de ma vie dans ta maison. Et le Seigneur me dit, mais tu es mon temple. Tu es mon temple. Moi, Seigneur, j'habite en toi. J'habite au milieu de vous. Je suis avec vous et je ne renierai pas cela, nous dit le Seigneur. Quand même tu serais infidèle, moi je demeure fidèle. Et Seigneur, ça me fait du bien de savoir, oui, je suis déjà dans cette communion, même si je ne vois pas encore les rues pavées d'or, les portes faites d'une seule perle, si je ne vois pas encore la nouvelle Jérusalem dans mon cœur, c'est comme si déjà, je vivais dans la cité de Dieu. Joie de toute la terre. Et je veux vivre aussi cette promesse. Paul nous l'enseigne dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Aujourd'hui, je suis vivant, car il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Je veux vivre cela. Un jour, je le vivrai en plénitude, Seigneur. Mais sur cette terre, je veux déjà marcher en vainqueur. Amen. Ma conclusion est de dire, le vainqueur est celui qui aura vaincu. Et donc, celui qui aura combattu, qui aura couru, Et aujourd'hui, nous sommes dans le temps du combat. Nous n'avons pas encore franchi la ligne. Et il nous faut rester vigilants, alertes, conscients des temps dans lesquels nous vivons. Nous en avons parlé la semaine dernière, l'heure de la tentation qui vient sur le monde. Et Jésus nous appelle à garder sa parole, à garder ses œuvres, à rester attachés à lui. Et vaincre pour Jésus-Christ, c'est parfois aussi, en tout cas dans le monde, c'est continuellement être à contre-courant du monde. Et ça devient de plus en plus dur parce que le torrent devient de plus en plus puissant, le lit est en train de déborder. C'est un fleuve débordant, un fleuve dévorant, que celui qui coule dans ce monde, un fleuve d'iniquité, il nous faut tenir bon. Mais nous le savons aussi à travers les lettres aux églises d'Asie, c'est parfois aussi tenir bon dans l'église. Parce que nous sommes toujours dans les temps où la doctrine des Nicolaïtes, celle de l'hypergrâce, comme on dit maintenant, pourrait se manifester. Nous sommes toujours dans les temps où des Jézabels peuvent se lever pour nous amener à sonder les profondeurs de Satan. Nous sommes dans les temps aussi où nous pourrions très vite devenir des chrétiens très satisfaits, repus d'eux-mêmes, sans saveur, sans chaleur, des chrétiens tièdes, comme ceux de l'église de Laodicée. Il nous faut tenir bon, parce qu'il revient bientôt. Et nous voulons être vainqueurs. Gloire à Dieu. Jésus veut faire de toi un vainqueur. Et qu'il est bon de repasser cette parole de l'apôtre Paul. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, 37 à 39. Nous sommes plus que vainqueurs déjà, par la foi et selon ta foi. Jésus ne te regarde pas comme un perdant. Il veut faire de toi un vainqueur. Son désir, c'est de te couronner de toutes les couronnes qu'il tient en réserve pour toi. Qu'aucune ne se perde, c'est son désir. Tu es aujourd'hui engagé dans cette course, dans cette lutte, dans ce combat. Et le Seigneur est avec toi. Et déjà, il veut manifester sa grâce et sa puissance en te donnant de goûter par avance aux choses qu'il tient en réserve pour nous dans les cieux. Mais maintenant, peut-être que Dieu veut changer ta mentalité. Tu n'es pas simplement là pour participer. Tu n'es pas simplement là pour éventuellement un jour franchir la ligne d'arrivée. Tu es là pour courir et combattre selon les règles, dit l'apôtre Paul. Mais tu es là pour franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il y a de la place sur le podium. Sur la plus haute marche, il y a de la place. Il y a de la place pour toi. Il y a de la place pour toi. Il y a de la place pour toi. Et il y a encore une place pour toi là-bas. Tu peux être sur la première marche. À vrai dire, je ne sais pas s'il y a d'autres marches. Jésus veut faire de toi un vainqueur. Il faudrait qu'on puisse se lever en finissant ce culte. En demandant au Seigneur de nous donner cet esprit du vainqueur. Jésus est un vainqueur. Il a achevé l'œuvre que Dieu avait préparée pour lui. Et il a vaincu. Il a vaincu le monde. Et il veut faire de nous des vainqueurs. Des vainqueurs en Jésus, ce ne sont pas des gens qui écrasent les autres, qui mordent les autres, qui s'imposent aux autres. Mais les vainqueurs en Jésus sont des gens qui manifestent la douceur de Christ. Quelle plus belle image que celle de cet homme, Étienne. Étienne, Stéphanos, vainqueur, couronne plutôt. Lui fut couronné alors qu'il était encore sur cette terre. Les hommes l'accusaient. Son visage rayonnait de gloire. Et lorsqu'il servait Dieu, ses détracteurs étaient repoussés par la sagesse qui sortait de sa bouche. Et lorsque les pierres commencèrent à tomber sur lui, c'est comme si déjà il accédait à la victoire de la Odyssée. Le ciel s'est ouvert et il vit Jésus, comme si le Seigneur l'accueillait. Viens auprès de moi, t'asseoir sur ce trône. Le Seigneur veut faire de nous des Stéphanos et nous couronner sur cette terre.